Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique, nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi, Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Valdo Simo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs.
Nous retrouvons Amdine Si à Columbus, ici donc aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence. On a du mal à joindre Élisée Nkwatine depuis Boyukon au Bénin. Suite ce soir et demain, des matchs de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Comores 0, Égypte 0. C'était donc un deuxième match nul pour les Pharaons. Après le 1-1 concédé d'entrée face au Kenya, Amine, décidément, l'Égypte ne semble pas s'être remise de sa CAN ratée.
Et puis on vous dira aussi, un seul être vous que tout est dépeuplé, parce que lors du premier match, on avait senti cruellement l'absence de Mohamed Salah, et puis on avait vu surtout une équipe égyptienne très poussive, incapable de se créer la moindre occasion de but, incapable de préserver un avantage flatteur, acquis par 13 égaux à la fin de la première mi-temps face au Kenya. On se disait que les Égyptiens allaient pouvoir réagir, que l'entraîneur local, Hossein Bedri, allait pouvoir rectifier la situation après ce match nul acquis à domicile, ou plutôt concédé à domicile face à l'équipe du Kenya. Il n'en fut rien face à l'équipe des Comores qui continue à surprendre. Ça avait été déjà une des révélations des éliminatoires précédents, où elle avait tenu à dragée haute face au Maroc et au Cameroun. Cette fois-ci, c'est face à l'Égypte que les Comoriens ont situé leur épingle, réussissant à glaner ce point du nul et conservant la tête du classement de leur groupe, puisqu'ils avaient réussi à l'emporter en déplacement à Lomé en moitié de semaine dernière, c'était jeudi dernier. Et visiblement, il faudra compter avec cette équipe des Comores qui est capable de brouiller les cartes de ce groupe, où l'Égypte partait logiquement sur le papier comme favori de ce groupe et où elle se retrouve aujourd'hui quasiment en ballotage défavorable après deux journées.
1-0 pour le Ghana devant Sao Tomé et Principe, deux matchs et deux victoires donc pour les Black Stars du Ghana, toujours ce soir, 2-2 entre le Cap-Vert et le Mozambique, 1-1 entre le Kenya et le Togo. La République démocratique du Congo a été elle aussi accrochée par la Gambie, 2-2. Alors Valdo, un score amer puisque les Léopards ont cédé en fin de match.
Ah ben oui, un score amer qui n'arrange pas du tout les affaires de cette sélection de la République démocratique du Congo à l'entame de ces éliminatoires. Deuxième journée, la RDC qui a réussi à marquer en premier, mais s'est fait à chaque fois rattraper et ces Gambiens ont été réactifs face au Léopard de la République démocratique du Congo. Il fallait bien poursuivre cette aventure des éliminatoires après les nuls blancs face au Gabon ici à Kinshasa, mais en Gambie, la RDC a montré un visage assez poussif aussi, s'il faut le dire comme ça, parce qu'ils ont réussi quand même à marquer pendant les derniers instants de la première période, mais dès l'entame de la seconde mi-temps, ils ont été égalisés. Ils se sont créés pas mal d'occasions. Les Gambiens n'étaient pas du tout, bien sûr, passifs. Ils ont été bien chez eux, ils ont bien joué, et quand même que la RDC à chaque fois a pris les devants, ben, il s'est fait toutefois rattraper au score. Donc c'est très compliqué, très complexe, s'il faut regarder ces tableaux. Cette équipe gambienne est vraiment difficile à jouer à domicile. Il faudra cette fois-là, certes, revoir un peu les tirs, parce que les deux prochaines journées seront des journées très très décisives. La République démocratique du Congo et son nouveau staff technique, donc il y a de la matière, il faut vraiment trouver la bonne. Certes, aujourd'hui, ça semblait aller avec ces deux buts marqués, mais difficile de les préserver derrière. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre entre la ligne offensive et la ligne défensive. Donc, un score qui déçoit, certes, mais il y a quand même un bon visage des Léopards qu'on a vu au terme de ces matchs.
Le match Botswana-Algérie vient juste encore de commencer. 6 minutes encore de jouer et le score est de 0-0. Les matchs de cette deuxième journée ont débuté hier. Le Mali a eu raison du Tchad 2-0 pour occuper la tête du groupe A, égalité avec la Guinée qui s'est imposée 2-0 également contre la Namibie. Alors Amdine, c'est un mano à mano entre Maliens et Guinéens qui se dessine dans ce groupe aux grandes dames des modestes Tchadiens et Namibiens.
Tout à fait, Yacouba, vous avez raison. Après le match nul qui a sanctionné quand même le derby de l'Afrique de l'Ouest entre le Mali et la Guinée, ces deux équipes ont très bien négocié la deuxième journée en allant s'imposer 2-0. Donc, ils prouvent leur statut de leader de ce groupe. Et je pense que les deux tickets de ce groupe vont se jouer entre ces deux pays. Je l'avais dit lors de notre émission précédente que le Mali, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, c'est des formations qui respirent la grande forme et qui montent en puissance. Et je sais que ces deux formations vont non seulement composer les deux tickets de ce groupe, mais même pour la CAN, ils vont avoir un grand coup à jouer. En tout cas, moi, je mise sur ces deux pays, Yacouba.
Dans le groupe B, le Burkina Faso a signé sa première victoire dans ses éliminatoires face au Soudan du Sud, battu 2-1. Les étalons sont deuxièmes du groupe derrière l'Ouganda, vainqueur 2-0 du Malawi. Alors, de son côté, le Sénégal a enchaîné dans son groupe I, deuxième match et deuxième victoire, donc cette fois-ci face à l'Eswatini, battu 4-1 chez lui. Alors, Amdine, je vous reprends, le navire sénégalais, lui, tient la route.
Oui, tout à fait. Le Sénégal qui avait quand même un match piège face à l'Eswatini, c'était un match piège, hein, et le Sénégal l'a bien négocié. Les Lions ont finalement réalisé une très bonne opération en s'imposant le score de 4-1. Mais il faut dire que Yacouba, ce n'était pas du tout facile puisque la première mi-temps a été très difficile pour les Lions qui ont eu à battre une bonne équipe eswatinienne qui a rivalisé d'ailleurs avec les Lions. Pourtant, le Sénégal avait bien débuté en obtenant un penalty à la 8e minute, un penalty raté par l'attaquant Famara Diédou. Donc il a fallu attendre la seconde période pour voir le Sénégal faire la différence. Et pourtant, on a joué les 8 premières minutes de la seconde mi-temps, a été équilibré entre ces deux équipes, mais il a eu cette fameuse pluie qui a poussé l'arbitre à arrêter la partie durant une vingtaine de minutes. Mais après, à la reprise, on a vu un autre Famara Diédou qui a réalisé un triplé. Il a sorti le grand jeu en inscrivant 3 buts coup sur coup, 51e minute, 65e et 68e minute. L'équipe locale a réduit la marque par son capitaine Damba, mais ensuite il y a eu ce carton rouge et ce 4e but de Pape Aliou Ndiaye, et puis le Sénégal a doublé 4-1. Le Sénégal qui prend la tête de cette poule. Mais je voulais vous faire remarquer que Aliou Cissé, depuis qu'il a la tête, il est à la tête de cette équipe nationale du Sénégal, il n'a pas encore compté de défaite en éliminatoire. C'est 14 matchs, 13 victoires. Donc le Sénégal est bien parti, Yacouba.
Merci, belle statistique donc pour Aliou Cissé. Le Congo prend la deuxième place du groupe I grâce à sa victoire 3-0 aux dépens de la Guinée-Bissau. Alors Jules, les Diables Rouges se sont repris après leur défaite d'entrée à Thiès au Sénégal.
Oui, bien sûr, surtout que les Diables Rouges ont un potentiel. On l'a vu lors des dernières éliminatoires dans un groupe très serré avec le Zimbabwe et la RDC. Commence à se jouer sur très peu de choses au dernier moment. Et donc la défaite face au Sénégal, face à un Sénégal qui a une équipe en place et une équipe qui est bien rodée avec de bonnes individualités. Et cette défaite-là peut être oubliée pour le moment et le Congo se remet en route.
Première victoire également pour le Bénin dans le groupe L. Élisée qui nous manque ce soir. Coup de victoire des écureuils 1-0 contre la Sierra Leone. Et service minimum dans un match difficile, comme le reconnaît Michel Dussier, le sélectionneur du Bénin, qu'on va écouter.
On peut toujours mieux faire, mais vous savez comme moi, dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est toujours des batailles, quoi. C'est toujours difficile. Et jouer à cette horreur, ça nous aide pas non plus, quoi. Donc oui, il y a des matchs comme ça où on gagne pas avec la manière, mais l'essentiel c'est de gagner, quoi, de prendre les 3 points. Parce qu'à domicile, il faut s'imposer. Des équipes comme la Sierra Leone et le Lesotho sont nos concurrents directs pour la qualification. Satisfaction d'avoir pris les 3 points.
Satisfaction donc de Michel Dissuyer, sélectionneur du Bénin, qui répondait au micro d'Élisée Mpatine, notre correspondant. Dans ce même groupe, le Nigeria a réussi la passe de 2 en gagnant 4-2 au Lesotho. 1-0 pour l'Afrique du Sud contre le Soudan dans le groupe C. Même score en faveur du Cameroun sur le terrain du Rwanda. Alors Jules, le Cameroun est d'office qualifié du fait de son statut de pays hôte, mais les Lions ont quand même réagi tout de même après le match nul concédé face au Cap-Vert en ouverture.
Oui, surtout que les Lions, comme la plupart des pays hôtes font un turnover pour voir quelles sont la meilleure équipe possible qu'ils pourront présenter et surtout avec un effectif avec lequel ils pourront varier les plans de jeu puisqu'ils devront faire le jeu devant des adversaires qui viendront pour la plupart contrer. Et donc, dans ce genre de turnover, comme ça a été le cas la dernière fois, on découvre toujours un joueur en forme, comme ce fut le cas pour Baouken à la dernière édition. Et je crois que pour le Cameroun, c'est un long marathon de préparation.
Jules, je reste avec vous. 2-1 également pour le Gabon face à l'Angola. Les Panthères ont réussi le coup à domicile.
Oui, parce que les Panthères ont retrouvé un autre état d'esprit et le nouveau sélectionneur ne veut à l'heure à redonner un esprit d'équipe et de solidarité, de combat. Et finalement, face à des Angolais qui voulaient essuyer leur déconvenue de la première journée, les Gabonais qui ont mené se sont pratiquement fait inquiéter en fin de rencontre, mais ils ont tenu le coup et ont pris les 3 points de la rencontre.
Cette deuxième journée s'achève demain mardi avec 7 rencontres au programme. Le Burundi reçoit le Maroc. Ce sera la première fois que Burundais et Marocains s'affrontent, mais pas un match historique de l'avis du sélectionneur des Hirondelles, burundaise bien sûr, Alain-Olivier Nyunguko, qu'on écoute.
Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on rencontre l'équipe marocaine, mais je dirais que ce n'est pas un miracle parce qu'on a joué contre la Tunisie, on a joué contre l'Algérie. Et le football maghrébin, c'est une ressemblance, comme tu peux dire, au football burundais-rwandais. Ce n'est pas historique parce que tu sais, comme c'est dans le football, on joue, il y a quelqu'un qui gagne ou bien qui perd, mais en vrai, c'est toujours fait prêt en disant et je suis chez moi et je vais gagner chez moi, je vais gagner devant mes fans, c'est-à-dire demain, il y aura une bonne rencontre et un bon niveau de football.
Alain-Olivier Nyunguko, sélectionneur du Burundi. Gagner, c'est aussi le maître mot côté Lion de l'Atlas.
Je pense qu'on a une obligation de gagner mardi. Voilà, on est venu ici, c'est pour ramener les 3 points chez nous. Et on doit bien ça aussi à nos supporters qui attendent une victoire depuis un moment. Il y avait de la chaleur ce matin, mais là, ça s'est calmé, il fait frais. Donc non, alhamdoulilah, ça va. C'est sûr que mardi, ça sera la même température. Et voilà, on essaiera de tout donner quand même. Ça va, l'ambiance générale du groupe allait bien, alhamdoulilah. Donc on s'entend tous bien. On est tous soudés les uns les autres. Donc ouais, voilà. Après, voilà, c'est ce qui nous manque, c'est cette petite victoire. Mais inchallah, on l'aura ici mardi.
Salim Amala, joueur marocain, des propos recueillis par Amine Birouk. Alors Amine, qu'est-ce qu'il faille corriger chez les Lions de l'Atlas pour décrocher enfin cette victoire qui est impérative après le nul concédé devant la Mauritanie à domicile?
La sérénité à atterrir après une période assez trouble avec un sélectionneur déjà en conflit avec une partie de la presse en raison de ses déclarations, mais on prend Vahid Halilhodžić tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, et puis surtout sur le plan du jeu, de l'efficacité. Face à la Mauritanie, le Maroc a tiré à 21 reprises. Il n'a cadré que 7 fois et il n'a jamais réussi à prendre à défaut l'équipe mauritanienne. L'équipe du Maroc a eu 70% de possession et il n'a jamais réussi également à contourner le bloc défensif assez bas qui avait été proposé par Corentin Martins. Donc déjà, l'équipe du Maroc doit retrouver de la sérénité, de la confiance, une canne manquée en Égypte, des débuts laborieux avec le nouveau sélectionneur et surtout beaucoup d'interrogations qui se posent sur les choix de ce dernier. Le fait de ne pas proposer des joueurs issus du championnat alors qu'ils sont rodés aux joutes africaines pose polémique. C'est un peu une polémique qui revient à chaque fois que l'équipe du Maroc ou une équipe d'Afrique du Nord ne marche pas et c'est le cas en ce moment. L'équipe du Maroc a impérativement besoin des 3 points de la victoire. Elle se déplace avec toutes ses forces vives. On pourrait avoir quelques changements dans la composition d'équipe, peut-être la titularisation de l'avant-centre de l'Olympiakos, le Piré Youssef Larabi à la place du joueur Youssef Nsiri pour pouvoir avoir ce buteur qui fait des fois cette équipe du Maroc et puis peut-être un tout autre état d'esprit sur une pelouse synthétique dans un petit terrain face à un adversaire qui va jouer de manière très repliée. Il va falloir proposer peut-être un jeu plus direct, moins élaboré, avoir moins de mangeurs de ballon milieu de terrain pour avoir une circulation de jeu un peu plus fluide et puis attention aux coups de pied arrêtés parce que les Burundais se sont préparés à cette alternative pour pouvoir prendre à défaut une équipe du Maroc qui n'avait pas été réellement mise à contribution sur cet aspect-là du jeu lors du match de vendredi dernier à Rabat face aux Mauritaniens.
Toujours demain, l'Éthiopie reçoit la Côte d'Ivoire. Alors Amdine, on a vu les Ivoiriens souffrir à Abidjan face au Niger, même si la Côte d'Ivoire a finalement remporté 1-0, c'était sur un pénalty totalement litigé parce qu'il n'y avait pas faute demain. Ces Ivoiriens-là n'inspirent pas confiance jusque-là depuis leur CAN, mi-figue, mi-raisin. Amdine?
Oui, Yacouba. Je disais que la Côte d'Ivoire
qui a un problème de renouvellement de son effectif. Depuis le départ de ses cadres, la Côte d'Ivoire a du mal à présenter une équipe compétitive, une équipe qui peut tenir le rang, puisque la Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Il y avait la génération dorée des Drogba, des Yaya Touré, mais depuis lors, c'est le désert. Mais je pense que petit à petit, ils vont revenir dans la compétition. Ils vont avoir une équipe compétitive pour pouvoir quand même tenir le rang, puisque la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quelle équipe dans ce continent, Yacouba.
Alors, Jules, il y a également la Mauritanie qui reçoit la Centrafrique. On sait que les Centrafricains ont remporté dans leur premier match 2-0 face au Burundi à Bangui. Cette fois-ci, ils se déplacent en Mauritanie. On a vu la Mauritanie accrocher le Maroc lors de la première journée. La Centrafrique qui court toujours après une première qualification historique à une phase finale de Cannes, c'est possible désormais. Jules.
On se retrouve avec un favori, le Maroc est favori naturel et trois adversaires qu'il faut prendre à égalité. Et parce que la Centrafrique, depuis qu'elle s'en fait de très bonnes choses ici en Afrique centrale, il manque depuis toujours les qualifications avec un football en attaque placé très agréable à voir. Donc ça nous présentera une belle opposition de style contre les très athlétiques mauritaniens et qui généralement aiment jouer avec un bloc reculé. Donc finalement tout est possible lors de cette rencontre.
À suivre aussi Zambie-Zimbabwe, le Niger reçoit Madagascar et la Libye reçoit la Tanzanie, la Guinée équatoriale recevra la Tunisie. Alors, Valdo, parlant de ce match Niger-Madagascar, on a vu la flamme peut-être un peu s'éteindre du côté des Malgaches après la CAN.
Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, ils sont sur une très très bonne lancée là après leur victoire lors de la première journée, ces Malgaches. Parce que là, ce sera un match très plaisant. Ils vont certainement assurer la qualification lors de cette campagne des éliminatoires. Ces Malgaches sont très difficiles à jouer et ils prennent goût. Ils ont pris goût quand vous jouez, bien sûr, la phase finale de la CAN et que vous prenez le dessus sur la République démocratique du Congo. Vous surprenez plus d'un spectateur lors de cette grande messe du football africain et que vous êtes maintenant à l'étape des éliminatoires pour la prochaine CAN. C'est une obligation d'aligner une deuxième qualification de suite. Donc, je pense bien que ces Malgaches ont une carte à jouer. Ils jouent un football plaisant, sans complexe. Ils ont des armes à faire valoir. Ils ont bien sûr une réputation également à assurer après ce qui a été leur dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je pense bien que ce sera un match plaisant, car ils savent qu'avec deux victoires de suite, lors de prochaines journées, ils pourront facilement se mettre déjà à l'abri et assurer leur qualification.
Merci Valdo. Depuis Kinshasa, vous suivez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Vous l'avez également suivi la semaine dernière, Didier Drogba est officiellement un candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. La semaine dernière, Drogba a entrepris des rencontres avec l'électorat de la FIF, les acteurs du football local, entendez. Le projet de Drogba, baptisé Renaissance, s'articule donc autour de 5 points majeurs qui sont cadre légal et réglementaire de la pratique du football, infrastructure, les acteurs, économie de l'industrie et développement de la médecine du sport. Et il disait quelque chose, je vais le citer entièrement. « Je suis là pour enclencher le changement et non pour m'enrichir à la FIF. Je pouvais rester à Chelsea où toutes les conditions sont réunies, mais j'ai décidé de venir m'investir dans le football local parce que j'aime mon pays », déclarait donc Didier Drogba. Alors, Amdine, c'est un choix assez fort et il est vraiment déterminé. A-t-il des chances de se faire élire, Didier Drogba? Et donc, on va essayer de retrouver Amdine Sy. Alors, Jules, j'ai cité tout à l'heure Didier Drogba qui a eu une chance du côté de Chelsea et qui a décliné au profit de son pays, la Côte d'Ivoire, dont il veut diriger la fédération. Ce retour des anciens internationaux comme ça dans le football local, ça pourrait aider.
Oui, bien sûr, et c'est très souhaitable. Et tout le monde sait l'apport qu'ils peuvent amener au football en Afrique. Et pour le cas de Drogba, par exemple, c'est un patriote, un grand patriote. On l'a toujours vu sur le terrain. C'est un guerrier qui se bat pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas l'idée d'un joueur dans le passé de la Côte d'Ivoire qui a autant incarné la gagne dans la sélection du pays. Et donc, franchement, on lui souhaite bonne chance. Il a toutes les chances de présenter un projet favorable et accepté. Il est très populaire et c'est une bonne idée que de se présenter pour honorer son pays.
Alors, Valdo, comparaison n'est pas raison. On a vu Kalusha Bolia réussir avec la Zambie en tant que président de la FEDE, remportant notamment cette canne, cette fameuse canne 2012, on va le dire, avec Hervé Renard face à la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'homme, Didier Drogba, parlant de lui bien sûr, il a la carrue.
Bien sûr, il a la carrure, mais je sens Didier Drogba un peu, il veut un peu se rattraper au niveau national, parce que lui qui n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique des Nations avec sa nation, il a joué deux finales, il n'a rien donné à sa nation, quoi de plus normal, occuper un poste aussi important, président de la fédération, pour essayer de revoir les choses, d'échanger également, si possible, et d'aller chercher ses trophées. Si sur terrain il n'a pas réussi, mais en tant que dirigeant de la fédération, il arrivait à remporter, bien sûr, à permettre à ce que son pays remporte la Coupe d'Afrique des Nations, ça sera quelque chose de très important, mais ça n'arrive pas souvent. Kalusha Boalia, sur la scène continentale, même sur le plan international, n'aura pas un aussi long palmarès que Didier Drogba. Didier, c'est une image, il a interné tout un championnat, toute une équipe de Chelsea, de Marseille à Chelsea, il a bien sûr porté l'Afrique au niveau européen. Revenir en Afrique, c'est un choix vraiment judicieux, mais il faudra qu'il sache que parfois les résultats ne peuvent pas suivre. Hein. Mais du moins, il a l'ambition, c'est une très très bonne chose, un très bon investissement. On espère bien qu'avec son savoir-faire, son expertise et tout ce qu'il va apporter comme changement, ça va aider le football ivoirien et certainement que ça pourra aussi contaminer d'autres pays sur le continent, parce que quand vous avez un joueur qui était sur le terrain et qu'il devient président d'une fédération et qui a arrêté il n'y a pas longtemps, donc on sent qu'il y a une nette volonté de bien faire et de revisiter certaines choses quand on sait que la partie du football sur le continent africain pose encore de sérieux problèmes. Problème d'infrastructure, problème de la médecine des sports, comme il a si bien dit, un problème des médicaments, des choses que les Africains viennent prendre après des dopages et consorts, tout ça là. Et je pense bien qu'il pourra apporter son expertise, tout son savoir-faire pour que le football ivoirien en particulier rayonne, mais également le football africain à travers son expertise, parce que Didier Drogba aujourd'hui, c'est tout le continent africain qui connaît, qui est cette icône du football africain.
Alors, Amine, Drogba se choisit un futur autre que celui d'entraîneur et se démarque ainsi du rêve de pas mal de joueurs en fin de carrière. On sait qu'en Afrique, le plus souvent, ce qui est très difficile, c'est que le politique s'immixe généralement dans la gestion du football local. Les choses ne seront pas faciles pour lui.
Les choses ne seront pas faciles pour lui, mais il a un crédit. On se rappelle qu'il avait grandement contribué à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est une icône. C'est quelqu'un qui a acquis un savoir-faire à travers son parcours professionnel, qui n'est pas si banal que ça, puisqu'il a commencé très petit à Guingamp, et il a commencé à grandir au fur et à mesure en passant par l'Olympique de Marseille, puis en arrivant à Chelsea. Il a l'avantage d'avoir un carnet de connaissances, un réseau, qui va pouvoir certainement l'aider à contribuer au développement du football ivoirien, et tous ses atouts font aujourd'hui un élément incontournable. Il faut aussi se rappeler qu'il a également un rôle au sein de la Confédération africaine de football, puisque on l'a vu lors de la dernière CAN en Égypte, côtoyer les membres du comité exécutif et le président. Tous ces éléments pourront contribuer en cas d'élection à faire de Didier Drogba cette locomotive dont a besoin le football en Côte d'Ivoire, mais surtout dans une partie névralgique du continent africain. L'Afrique de l'Ouest a toujours été une des locomotives, un des centres, je dirais, essentiels du football africain. Et aujourd'hui, on a besoin de locomotives en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays en Afrique occidentale.
Alors, Jules, très rapidement pour finir, on sait que Sidi Diallo, l'actuel président de la Fédération ivoirienne de football, a longtemps été décrié après la CAN 2015 remportée par les Ivoiriens. Ça pourrait être peut-être un avantage pour Drogba, vu que les Ivoiriens ont voulu à un certain moment donné qu'il parte, parlant de Sidi Diallo.
Oui, bien sûr, c'est un avantage pour Drogba, et comme lui au moins a la chance de voir sa candidature acceptée, je ne doute pas qu'il puisse ne pas être réélu comme certains avant lui dans des pays comme le Cameroun où Joseph Antoine Well tente depuis toujours de prendre la direction du football qui correspond à sa pointure. Et franchement, Didier Drogba, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire.
Merci Jules-Valentin Goué depuis Libreville au Gabon. On va dire merci également à Valdo Simo Yamba Yamba depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Merci à Mine Birouk qui était avec nous depuis Casablanca au Maroc et à Amdine Si ici aux États-Unis à Columbus. Merci à tous d'être restés à l'écoute de cette émission Sporama qui s'achève pour aujourd'hui. Devant ce micro, Yakuba Ouedraogo, je vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Michel Joseph était à la réalisation. Tout de suite, une nouvelle édition du journal avec Abdourahmane Dia.